Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le débrief de l'Actu Tech avec ce soir, vous allez voir, du beau monde encore une fois. Frédéric Simotel, bien sûr, qu'on ne présente plus, toujours aussi bronzé. Comment fait-il ? Tuto YouTube, hein, bien sûr, pour avoir le teint hâlé de Frédéric Simotel, bien évidemment. À côté, Christophe Honnête. Bonjour Christophe.
Bonsoir François.
Senior advisor chez Seven2, ancien président de Microsoft Asie du Sud et France. Et Jérôme Marin ce soir.
Bonsoir.
Salut Jérôme.
Salut François.
Fondateur de la newsletter cafetech.fr. Voilà, vous voulez avoir toute l'actualité tech, abonnez-vous à cette newsletter.
Exactement.
Tu parles que évidemment de tous les sujets qu'on évoque dans Tech & Co.
Oui, ça se regroupe souvent. Ouais.
Ça se regroupe souvent. Ouais. D'où ton, on va dire, ton niveau de compétence dans ce domaine-là.
Merci.
Ça fait combien de temps que tu es dans la tech, Jérôme?
Ça fait depuis 2012.
Depuis 2012?
Ça fait 12 ans.
Mais c'est un bébé.
Ah bah oui.
2012. C'est incroyable. Et oui, bah écoutez, vous allez voir, on va passer une bonne soirée. On est ensemble jusqu'à 21h pour débriefer l'actu tech. Avec, on l'a dit, bien voilà, c'est le FMI qui propose une nouvelle taxe pour compenser les impacts de l'IA. Évidemment, on parle d'écologie parce que l'IA, bah, c'est de la puissance processeur, c'est du cloud et ça consomme beaucoup, c'est très énergivore. Oppo, tiens, le constructeur de smartphones chinois qui était parti en 4... J'allais dire catimini, mais pas tout à fait, avec pertes et fracas quand même l'année dernière, hein. revient en France. Pourquoi ? Là aussi, on se posera la question. On parlera d'Apple, encore une fois ce soir, mais cette fois-ci, ça chauffe pour Apple. Parce que l'Union européenne n'est pas tout à fait satisfait des règles du DMA qu'Apple essaie d'imposer à l'Europe. Et vous allez voir que ça peut leur coûter cher, cette histoire-là. On parlera aussi du Buy Now, Pay Later, qui est quelque chose qui cartonne aux États-Unis. Peut-être un peu moins en France, mais c'est vrai qu'aux US, c'est vraiment très répandu. C'est le fait de fractionner les achats. Par exemple, vous achetez un iPhone... Au lieu de payer d'un coup 1000 euros, ben, vous le payez en 4, 5, 6,
surtout
10 fois.
Gros, surtout avec des gros achats.
Avec des gros achats, voilà, et ça cartonne. Oui. Ça cartonne, mais Apple change de stratégie concernant ce Buy Now, Pay Later, on en parlera tout à l'heure. Bref, plein de sujets passionnants, mais pour débuter, messieurs, j'aimerais bien avoir votre avis sur la toute puissance de Nvidia. Voilà, première capitalisation boursière au monde, devant Microsoft, devant Apple. Qui aurait pu imaginer, en toute sincérité, il y a encore, on va dire, un an, que Nvidia pourrait être la première capitalisation boursière? Jérôme.
Il y a un an, ils s'approchaient des 1000 milliards. Donc là, ils sont à 3300 et quelques milliards. Donc ça fait x3 en un an.
Ils visent les 4000, hein, selon certains analystes.
Même lu 5000 milliards. Ouais. Mais en fait, je pense que personne n'aurait pu l'imaginer. C'est vrai que c'est une petite bulle quand même. Parce que si on regarde la valorisation, les multiples de valorisation, ils sont très élevés. On est à 80% sur les profits. Apple, ils sont à 35 fois. Microsoft sont à 35 points, donc on est vraiment sur des niveaux très très élevés de valorisation, avec le pari que l'IA est là pour rester et que finalement on voit les puces, les GPU de Nvidia sont très populaires et donc la demande ne fait qu'augmenter. Ils essaient d'élargir leur offre dans le cloud, dans les serveurs, voilà. Et donc le pari, c'est qu'aujourd'hui ça va continuer à augmenter pendant plusieurs années encore.
Alors, avant de commenter tout cela, je vous propose d'écouter le sujet d'Étienne Brack qui revient justement sur ces chiffres ahurissants. On écoute.
La course à l'IA continue de porter Nvidia en bourse. Le titre a été multiplié par 3 depuis le début de l'année et par 8 depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022. Pierre angulaire de l'IA, le groupe californien détient aujourd'hui une part de marché de plus de 80% dans le segment des puces dédiées à l'intelligence artificielle. Et ce monopole n'est pas prêt de s'essouffler. Intel peine à rentrer dans la course quand AMD et Broadcom ramassent les miettes. Fort de cette position, Nvidia impose ses prix et arrive à réaliser une marge d'exploitation de 69% au premier trimestre, une marge nette de 57%, ce qui est tout simplement inédit sur la cote américaine. Avec une capitalisation désormais au-delà des 3300 milliards de dollars, le groupe pèse désormais plus que le CAC 40, qui culmine à 2600 milliards de dollars.
Oui, on voit que Alphabet a 1000 milliards de moins de capitalisation boursière. C'est ahurissant. Christophe.
Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Nvidia, Microsoft, Apple ont creusé l'écart, si je puis dire, sur la valorisation. Mais il faut bien prendre conscience de ce que représentent ces valorisations. Hein. Je crois que la totalité du CAC 40, c'est autour de, je sais pas, autour de 2500-2600 milliards. C'est-à-dire que ces sociétés-là sont plus valorisées que les 40 premières entreprises françaises.
La dette de la France.
oui, je sais pas. Et encore, il va falloir que ça croise vite pour continuer à garder l'écart. Non, je crois que ça consacre effectivement cette croissance phénoménale. Ce que disait Jérôme, c'est vrai, les multiples sont très élevés, mais ils sont basés aussi sur des espérances de croissance qui sont où finalement ils ont juste à fournir la demande. Le tout avec quand même des économiques qui sont quasiment pour un fabricant de hardware. 78% de marge brute. Je veux dire, on est sur des 57% de profit. On est sur les marges typiques d'un éditeur logiciel.
Bien sûr, c'est presque indécent. Enfin, c'est
extrêmement.
Je sais pas. Il y a pas beaucoup de boîtes
donc,
de hardware qui
aujourd'hui
font.
Aujourd'hui, ils sont dans un mode où finalement les acteurs se battent pour récupérer les GPU. Donc voilà, je pense que ça consacre cet état de fait. Bon après. Comme tu disais, il peut y avoir une bulle à la fois, une bulle dans les valorisations, mais aussi
dans l'IA,
En général, et aussi dans le fait que est-ce que il va forcément y avoir des concurrents qui vont arriver à un moment donné. Les data centers sont pas extensibles à l'infini. On reviendra tout à l'heure sur les challenges environnementaux que ça pose. Et donc Jason Wang, qui est quand même quelqu'un qui a connu des hauts et des bas et qui est absolument un entrepreneur remarquable, il réfléchit. Je pense qu'il sait très bien. Il a vu, par exemple. Là, tu t'es pas né, Jérôme, mais en 2000, lors du...
Oh, quand même. Non, 2012, c'était le début de sa carrière dans la tech.
Ma carrière. J'ai commencé à couvrir la tech.
Ah, oui, à couvrir dans la tech, bien sûr. Non, mais je dis dans ta carrière dans la tech, en fait.
Avant que tu n'éclaires la tech de tes
parce que t'as un peu plus de 12 ans, quand même.
Avant que tu n'éclaires la tech, justement, il y a eu la bulle Internet en 2000, et je me souviens que Cisco était à un moment la première valorisation boursière. Notamment parce qu'il, devant Microsoft, parce qu'il fournissait les data centers des opérateurs télécoms. Et quand ça s'est arrêté, bon, tout s'est écroulé. Donc, d'où un certain nombre de choses que Jason Wang pousse énormément, c'est comment créer plus d'adhérence des clients et plus de récurrence dans le chiffre d'affaires. Donc, il pousse très fortement l'offre qu'ils appellent DGX Cloud, qui consiste en fait à faire du NVIDIA as a service. Concurrente à Amazon, mais qui est elle-même hébergée chez.
Donc je loue la puissance de calcul en fait.
Voilà, c'est ça. Mes propres serveurs qui sont chez Amazon en faisant concurrence à Amazon. Mais
Amazon, Microsoft et Google.
Ouais, les trois. Mais je prends l'exemple de ce qui est assez intéressant. Et en poussant aussi des architectures avec du câble, des choses autour pour verrouiller plus les clients et puis créer de la récurrence. Parce que je pense qu'il sait très bien qu'à un moment donné. Ouais. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel.
Là,
il va se passer quelque chose.
Il savoure son pain blanc, mais jusqu'à quand?
Il anticipe la suite.
On ne sait pas.
Oui, et puis surtout, moi, je trouve que par rapport à ce que disait Jérôme aussi, c'est les marchés. Je trouve qu'ils ont une vision quand même assez optimiste, quoi, parce qu'on l'a dit, les constructeurs, des data centers, oui, ils s'en construisent, mais il va pas s'en construire non plus des tonnes. En plus, on en reparlera tout à l'heure, l'histoire des consommations d'énergie, ça va faire que tout le monde va un peu revoir tout ça. L'IA, oui, les entreprises y vont, mais on voit quand même que elles y vont. Modérément, qu'elles ont du mal à trouver les cas d'usage, que les investissements ne sont pas aussi forts que ça. Hein. On a des très grandes entreprises françaises du CAC qui disent, moi, dans les modèles d'IA, les LLM, je dépense 8-10 000 $ par mois, pas plus, hein, et pourtant ça me permet de rendre service. Donc voilà, derrière, et je ne consomme pas que du NVIDIA, donc quand même tout cet effet-là. Il y a l'effet aussi de... qui seront les gros demandeurs. Là, on voit Meta qui annonce des licenciements. Enfin, il y a un moment, peut-être que ceux-là vont dire, bon, attendez, nos commandes, on va les étaler un peu. On va pas tout prendre sur 2025. On va étaler jusqu'à 2028 parce que finalement, cette demande, elle n'arrive pas. Et puis derrière, Jensen Huang, il a aussi, alors, ça n'a pas été tellement entendu par les marchés, il a donné quelques signes d'inquiétude. Il a dit, est-ce qu'on pourra toujours fournir ce niveau de performance, de processeurs et puis avec toute la chaîne logistique derrière. Il a parlé de la confidentialité des données. Il dit c'est un gros travail. Là, on va devoir investir énormément dans tout ce qui est sécurité, confidentialité des données autour de ces processeurs. Et puis, encore un qui s'interroge sur les effets de l'IA. Attention de ne pas aller trop vite. Il a quand même dit, même si on sait que c'est un peu paradoxal, là, ces gens-là qui disent on va à fond vers l'IA, puis attendez, on va retenir un peu les chevaux parce qu'on ne sait pas où on va. Enfin, il l'a quand même exprimé. Et puis derrière, il y a quand même une concurrence, même si aujourd'hui elle est un peu larguée. Bon, on voit le système. Hein. On pensait Microsoft largué dans l'IA, loin derrière Google. On voit où on en est aujourd'hui. Et donc voilà, on imagine qu'un Intel avec la nouvelle génération là de dirigeants chez Intel qui arrive aux manettes des labos de recherche et tout ça, ils vont pas laisser ça. Mais chez AMD, c'est pareil.
Il y a un temps nécessaire pour ces cycles-là qui sont pas immédiats.
Oui, il y a une inertie.
Et puis on oublie un peu les Chinois, les Asiatiques qui sont en train de bouger. On entend Samsung qui réfléchit, se dit on s'est laissé dépasser, là il faut qu'on s'y remette. Les Chinois se disent il y a un moment il faut qu'on soit un peu souverain aussi dans ce domaine. Donc là aussi, enfin voilà, ça fait beaucoup de petits signaux. Et je trouve que c'est tout ça, on se projette aussi assez loin, mais je trouve que les marchés pour donner autant d'importance aujourd'hui, enfin il y a quand même côté bulle quoi.
Ouais, mais c'est un acteur qui a 95% de marché dans un marché qui est aujourd'hui qu'on a du mal à fournir. Il grandit, il fait trois fois en un an. Donc voilà.
Après, il a l'avantage aussi d'être à la fois sur les GPU et à la fois sur des puces moindres qu'on retrouve dans les voitures. Il a longtemps été le gros partenaire de Tesla. Voilà, ils ont aussi un marché assez large pour pouvoir rebondir. Ils ont plusieurs gammes.
Jérôme, parce que effectivement, donc c'est vrai qu'il y a cette folie de l'IA qui fait que tout le monde veut investir parce que on a peur aussi. On se dit, si on n'investit pas maintenant, peut-être qu'on va être largué, etc. Donc, il y a ça. Il y a peut-être aussi quelque chose qui mérite d'être creusé, c'est que finalement, cette IA générative, qui est la plus consommatrice en fait de puissance de calcul, elle en est à ses débuts. Et on peut imaginer que petit à petit, elle va s'adapter et être de plus en plus performante. Et peut-être que finalement, cette IA générative sera de plus en plus puissante tout en consommant de moins en moins, un peu comme la compression vidéo, la compression musicale qui, on le sait, avec les années, a toujours été de plus en plus efficiente. Donc, peut-être que finalement, on va se retrouver avec des fermes de Nvidia un peu partout qui vont être surdimensionnées. Finalement, alors peut-être pas, mais en tous les cas, c'est vrai que c'est assez risqué quand même ce pari.
C'est sûr que les modèles, on entend avoir des modèles de façon plus petits, plus spécialisés, pour consommer moins, parce que vraiment, quand on fait tourner un modèle, ça coûte de l'argent de faire tourner un modèle, ça coûte de l'entraîner, bien entendu. Le fait que si le modèle il est gros, on peut pas le faire tourner sur son téléphone, on est obligé d'être dans le cloud. Donc là, c'est le sens de la technologie, on va aller vers des modèles plus petits qui consomment moins. Après, il y aura toujours besoin de GPU pour les entraîner, parce que il y aura toujours des très gros modèles qui demanderont beaucoup de puissance. Et donc il y aura toujours des GPU de Nvidia. Et puis Nvidia, comme disait Christophe tout à l'heure, ils sont en train d'élargir leur gamme en fait. Et donc avant ils étaient juste sur le GPU, et petit à petit ils remontent dans la chaîne de valeur. Et bientôt il y aura quasiment, on pourra faire du data center qu'avec du Nvidia en fait. Et donc finalement, même si ça baisse au niveau des GPU, comme ils auront élargi la gamme d'offres,
Service. Ils pourront compenser, voilà. C'est ça.
La gamme et tous les développeurs qu'ils ont recrutés, ils ont plein de.
Et de toute façon, vu l'état du marché aujourd'hui, que Nvidia, le carnet de commandes, il est plein jusqu'en 2025, voire même au-delà. 2026. Donc,
ils ont le temps de se retourner.
Du temps à voir. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que le jour où ils vont publier des résultats qui seront pas géniaux, et ben là, on va savoir, ils vont être sanctionnés, et peut-être très rapidement. Et il y a avant les derniers résultats qui étaient en avril, il y a un moment l'action avait baissé un peu de 10-15%, et on se disait peut-être que finalement, et là, les résultats sont arrivés, ils étaient excellents, et on est reparti de plus belle en fait. Donc à voir en fait.
Là, je pense qu'un des risques, comme disait Frédéric, c'est effectivement s'il y a il peut y avoir une sorte de désillusion un petit peu à un moment donné autour de l'IA générative, en disant dans les entreprises bon finalement je pense que Microsoft va avoir un sujet sur 28 € par utilisateur par mois pour les gens qui ont pris Copilot.
Quand tu payes déjà
dans un an au renouvellement, je suis quasiment certain que
ça va moins renouveler.
Que Microsoft déjà anticipe en disant il faut développer des nouvelles
fonctionnalités pour
des cas d'usage, s'assurer que les clients utilisent pour qu'ils en aient pour leur argent.
Et d'ailleurs, c'est intéressant, Microsoft ne communique pas sur le nombre de clients de Copilot, par exemple. Ils vont communiquer sur Azure. Donc sur eux, ils bénéficient parce qu'ils ont Azure, et Azure c'est là où on fait tourner les modèles, donc ils sont gagnants sur ce côté-là. Mais le côté Copilot, ils n'en parlent pas en fait, ils ne disent pas combien il y a de clients. Alors si c'était excellent, je pense qu'ils le diraient en fait.
Alors, Pardon.
Non, puis même quand tu discutes avec des entreprises qui ont commencé à mettre Copilot, alors, on rappelle au début, hein, tu ne prenais pas 5 licences, hein, tu prenais automatiquement 300 licences. Bon, voilà, on fait une multiplication, ça fait quand même un petit montant, il faut trouver les bonnes personnes. Et puis à l'usage, la productivité. Puis quand tu vas annoncer ça à ton DG, j'ai mis un logiciel, ça me trie mes mails, ça me fait les résumés des réunions, et puis ça me rédige un peu mieux mes trucs sur Word, et ça me découvre des formules sur Excel. Moi, je suis DG. Je dis, bah écoute, t'es gentil, mais tu leur prends 3 stagiaires et puis ça va pas me coûter ce prix-là.
Mais parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire en télétravail, quoi? Si tu lances Copilot.
Non, mais c'est non, plus la promesse. Et puis on a quelques désillusions dans l'usage, mais la promesse, c'est pas celle qu'attend un PDG de grande entreprise par rapport à l'IA.
Sujet intimement lié, c'est taxer l'intelligence artificielle. C'est une idée qui fait son chemin dans le débat public. Et cette fois-ci, c'est le FMI qui le recommande dans sa dernière publication. Il propose de renforcer les impôts et les taxes pour limiter l'empreinte écologique de cette technologie. On écoute les explications d'Adrien Guillaume Padovan.
Objectif : répercuter les conséquences environnementales sur le prix de cette technologie. Une proposition accueillie positivement par Emmanuel Vignon, président de Sicara.
On utilise la fiscalité pour lutter contre les défis du moment. Je pense qu'il y a une traction tellement forte aujourd'hui sur le développement de l'intelligence artificielle que c'est pas un outil fiscal qui va mettre en péril le développement de cette partie-là.
Le niveau d'émissions de carbone émis par l'IA pourrait exploser. Aujourd'hui, les centres de données, les serveurs et les réseaux de transmission nécessaires à cette innovation représentent jusqu'à 1,5% des émissions mondiales. On peut s'attendre à une augmentation significative à mesure qu'ils se développent.
Entraîner un moteur d'intelligence artificielle, ça demande des jours et des jours d'entraînement sur des machines qui sont puissantes. Donc, il y a une consommation d'énergie électrique qui est extrêmement élevée. Et donc là, c'est là où l'arme fiscale peut être intéressante, parce que je peux favoriser des moyens de production électrique dits verts.
Entre autres, le FMI appelle à repenser les politiques budgétaires avec plus d'agilité et d'adaptabilité de la part des gouvernements pour faire face à cette révolution technologique qui pourrait toucher jusqu'à 60% des emplois dans les économies avancées.
Voilà, Adrien Guillaume Padovan pour ses explications. Le FMI qui n'est pas contre l'intelligence artificielle, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Hein. Voilà, il est d'accord sur le fait que ça va accélérer la société, etc. Il met en avant ça, mais il met aussi en avant le fait que ça va détruire des emplois. Donc il y a toute une réflexion qui va bien au-delà de la taxation en fait de l'intelligence artificielle, je crois, hein, Christophe.
Oui, en fait, c'est un peu réducteur de dire que le FMI propose juste une taxe sur l'IA. En fait, il soulève un certain nombre de sujets, notamment les risques environnementaux et les risques liés à la destruction des emplois.
Sociaux.
Et en fait, sur les risques liés à la destruction des emplois, il propose, une boîte à outils en étant assez flou sur la chose, en disant finalement, il faut revoir la façon dont on impose les choses, etc., sans forcément aborder ce qui, pour moi, est un sujet qu'on devra forcément aborder un jour, qui est celui du revenu universel. Parce qu'il y a un risque non négligeable, on ne sait pas encore combien seront affectés, mais que pour les cols blancs, il y a peut-être 40 à 50, 60% des emplois qui seront affectés. Pas forcément détruits, mais qui seront réellement complètement transformés.
Donc il faut réfléchir déjà à la manière dont on va rémunérer ces gens-là travailler moins ou pas du tout.
Moins
c'est
ou pas du tout à cause de l'IA. Moi je pense que ça va être un vrai sujet, sans être aussi Cassandre qu'a pu l'être Elon Musk.
On se rapproche quand même. Hein.
À Vivatech, où il disait finalement tout ce que vous faites, une IA peut le faire, donc tous les jobs des cols blancs disparaîtront. Enfin,
c'est ce que dit Elon Musk depuis des années. Voilà. Hein. Pour lui, le futur de la société, c'est des robots et une intelligence artificielle qui va travailler pour les humains. Voilà. Il restera des gens qui travailleront, mais l'immense majorité des gens ne travailleront plus.
Et donc, quand tu travailles plus, il n'y a plus de taxes, tu n'as plus d'impôts, etc. Donc,
et comment vis-tu ?
On revient sur l'idée qui était, est-ce qu'on doit taxer les robots ou pas, les robots, les logiciels ou pas. Et le FMI ne répond pas à ça, il pose la question.
Merci, il va imposer les robots.
Il préfère vraiment s'orienter plutôt sur quelque chose qui est extrêmement précis, qui est l'impact environnemental de l'IA en proposant effectivement une taxe.
Jérôme.
Non, mais sur le revenu universel, pardon, dans la Silicon Valley, on en parle beaucoup en fait, du revenu universel. Il y a beaucoup de milliardaires ou de gens, d'entrepreneurs qui militent pour ce système. Il y a même une expérience qui est menée, je crois qu'elle est financée par Sam Altman, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, une expérience qui est menée. Parce que oui, c'est un vrai problème, on le sait avec... enfin, on le sait, mais on le sait pas aussi, parce qu'on pense que ça va arriver, mais pour l'instant, les applications de l'IA, elles sont encore assez limitées, donc ça va arriver dans quelques années. Il faudra forcément penser à comment organiser ça. Alors après, est-ce que ça passe par un impôt? Est-ce que ça passe par d'autres solutions? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant que ce soit le FMI qui est plutôt considéré comme une institution libérale qui propose de taxer l'IA, en fait. Mm-hmm. Donc ça montre que le sujet, il n'est pas juste est-ce qu'on est libéral ou est-ce qu'on n'est pas libéral. C'est un sujet qui est beaucoup plus vaste et qui dépasse un peu les frontières idéologiques.
Moi, je reviens juste sur la petite partie taxée sur l'empreinte carbone. Alors là-dessus, je suis pas trop d'accord, parce que je trouve qu'aujourd'hui, l'IA justement peut servir. Alors moi, je vois plutôt le côté positif, c'est l'IA for green, c'est-à-dire qu'on peut utiliser l'IA pour aller.
Oui, mais on peut. Mais pas tous les travaux d'IA sont là pour réduire l'empreinte de carbone. Oui, mais c'est ça le problème. Mais
trouver la bonne mesure de la taxe, ce sera. Enfin, je reste sur ce point,
enfin, Microsoft publie tous les ans ses émissions de gaz à effet de serre et ils s'étaient engagés sur des objectifs et aujourd'hui ils ont dit avec l'IA on peut plus les tenir.
Oui, mais c'est pour ça qu'ils ont embauché des gens. T'as vu de Pennsylvania énergie machin pour faire ils vont installer des SMR,
petites centrales nucléaires. Des petits
réacteurs nucléaires, c'est quand même la taille d'un court de tennis. Enfin,
mais ça crée effectivement de l'innovation.
Mais voilà, c'est ça. Tu vas quand même du renouvelable. Ils vont mettre pas mal de choses. Ils travaillent aussi beaucoup sur voilà, le refroidissement, enfin toutes les technologies sur lesquelles un peu classique des data centers, mais il y a aussi de l'IA for green et qui va pouvoir être développé auprès de tout un tas de métiers. Je prends toujours l'exemple que prenait Gilles Babinet sur les agriculteurs. Les agriculteurs aujourd'hui, ils ont des tas de données, ils s'en servent d'à peine 10% parce qu'ils peuvent pas exploiter tout ça et pour leur consommation d'eau, consommation de tout un tas de produits. Et là, grâce à l'IA, ils vont pouvoir réduire tout ça, réduire leur consommation même d'électricité, leur consommation de fuel pour ceux qui
Oui, mais ça va être une infâme partie, Fred. Oui. C'est ça le problème.
Si tu appliques ça à tous les métiers, mais là, je reste cantonné à l'histoire de la taxe sur l'énergie.
Mais aujourd'hui, quand même, il y a 50% de la consommation électrique des data centers est attribuable à l'IA aujourd'hui. Déjà 50%.
Déjà. Et on n'est pas plein régime.
Et là, on voit que ça augmente massivement. Et donc, on voit très bien que le volume global va augmenter. Aujourd'hui, quand on fait avec DALL-E, quand on fait une génération d'images, ça consomme l'équivalent d'une recharge de téléphone, recharge de smartphone. Donc, on voit bien qu'on imagine. Et quand tu fais une requête OpenAI, ça consomme 10 fois plus d'énergie qu'une requête Google équivalente. Donc on imagine ce que consommeraient des OpenAI ou Copilot pluggés en permanence aux applications en termes de surchauffe et de consommation énergétique dans les data centers. C'est assez monstrueux. J'ai vu là qu'il y avait...
On devrait obliger en fait que cette consommation provienne d'énergie propre. En fait.
Déjà, ça c'est pas possible parce qu'on peut le réseau électrique, l'électricité est injectée dans le. Mais après, il y a juste le problème, c'est qu'il y a.
Mais tu vas pas me dire qu'OpenAI ne peut pas mettre en place un système de production d'énergie.
OpenAI, ils ont pas de data center, mais Microsoft pourrait.
Oui,
le faire.
Microsoft ou Google.
Ils le font. Ils se connectent. Alors généralement, quand ils annoncent un data center, ils ont un deal énergie renouvelable à côté.
Bien sûr.
Souvent, c'est comme ça. Mais il y a tellement de data centers qui s'ouvrent aujourd'hui. Et en fait, le vrai problème des data centers aujourd'hui, des opérateurs de data centers, c'est de l'électricité en fait. Et c'est où on va se mettre pour que l'électricité soit pas chère.
Et où on va nous accepter aussi. Parce que tu vois, en France, tu vois, pour Microsoft,
et là, on parle pas de la consommation d'eau encore. Hein. On parle pas de la consommation d'eau. On parle de
oui, oui aussi parce qu'il y a l'eau aussi, effectivement.
Ça, c'est souci. Enfin, ça, c'est pas pour les data centers, mais Tesla en Allemagne, c'était le souci d'eau.
Tout à fait. Ouais. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. On a terminé sur
on
l'IA.
On n'a pas vraiment conclu sur le fait s'il fallait une taxe sur.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses?
Il faut qu'elle soit internationale déjà.
Oui,
voilà. Ça, c'est obligatoire. Voilà,
bien sûr. Mais peut-être proposer justement des dégrèvements pour pour des IA propres, on va dire, en tout cas qui servent justement à l'écologie, par exemple, à l'environnement.
Derrière, que ça participe aussi au niveau des développeurs, que les gens développent, enfin, fassent du. Mm-hmm. Ça commence, hein, mais on en parle depuis des années, mais le développement sobre, les développeurs ont tellement été habitués à avoir la puissance calcul avec du cloud, à plus savoir qu'en faire, que souvent les développements d'applications étaient très consommateurs.
Valoriser aussi les frugaux. Hein.
Voilà, et là justement, et d'ailleurs Mistral, on est un exemple d'un développement d'IA plus frugal.
Là, on se heurte à la difficulté d'avoir une approche mondiale de fiscalité ou de régulation. Mmh. On sait que c'est très compliqué.
Quand on voit où en est la taxe GAFA, donc.
C'est vrai qu'elle a pris un coup dans l'aile, hein, quand même, celle-là. Jérôme, Christophe et Frédéric, on revient dans un instant, bientôt 20h30. On va retrouver l'info éco. Oppo, le constructeur chinois, fait son comeback en France. Il revient avec de nouveaux téléphones après une absence de plus d'un an. C'est assez étonnant, cette histoire-là. On va y revenir. On parlera aussi du DMA avec peut-être une amende qui pend au nez d'Apple, hein, concernant le respect du DMA. Et puis, plein d'autres sujets qu'on va évoquer juste après. Donc, cette petite page d'actu éco. À tout de suite. Merci de nous suivre. C'était Kenko.